Bien, bonjour tout le monde. Heureux d'être ici ce matin. Le privilège est pour nous, l'équipe de JBEC, d'être ici ce matin. On est ensemble avec aussi Samuel, Catherine. Ce matin, ils vont aussi participer avec nous, avec moi et Guy. Alors, juste en partant, juste dire que je ne suis pas donc Jean-Paul. Alors, désolé pour ceux qui sont déçus. Ils ont aimé voir Jean-Paul en avant matin. Mais vous savez, toute fois, je viens ici, j'aime ça parce que j'ai toujours des cadeaux. On m'amène du linge, on m'amène des chèques, on me demande d'aller enseigner sur la famille. Je dis, j'ai pas le temps. J'étais à l'accueil un matin, il y a des gens qui étaient contents de voir que Jean-Paul est à l'accueil. Un message pour toi, Jean-Paul. Non, farce à part. Très content d'être ici ce matin avec vous, avec l'Église de l'Espoir qui nous accueille. Alors ce matin, oui, on va prendre quelques minutes. On aimerait vous présenter donc la mission. On veut vous parler de Jésus. Okay. On parle de la mission. On parle de la mission ce matin. On va ouvrir les Écritures ensemble. On va vous présenter des vidéos. On va donner juste un court témoignage dans quelques secondes. Mais juste pour vous mentionner, savez-vous, en tout cas selon certaines personnes, que quelqu'un a dit en fait qu'il y a trois étapes à la conversion. Attention, on va juste expliquer. Christ, la première étape. De venir à Jésus-Christ à la croix, le connaître personnellement, c'est la première étape. La deuxième conversion, Tim Keller ou Timothy Keller dit que ça fait partie de la conversion, c'est joindre une église locale. C'est vrai, hein? Joindre une église locale pour vivre la communauté, grandir ensemble, s'encourager. Et la troisième étape, c'est le monde. De s'engager à évangéliser le monde, c'est la troisième étape. On devrait peut-être plutôt dire que c'est trois éléments de la conversion. Christ, s'engager dans l'église et être témoin fidèle de Jésus-Christ. Alors ça fait partie. Et je disais cette semaine, juste avant d'aller plus loin, dans Ésaïe 43, verset 21, un texte qui m'a frappé. Dieu dit qu'il a formé Israël pour lui, afin qu'il publie sa gloire. Dieu, on peut dire aussi, a formé l'Église pour lui, afin de proclamer l'Évangile, la gloire de Jésus-Christ au monde qui nous entoure. Et JBEC, ceux qui ne savent pas, donc Jeunesse Baptiste Évangélique du Québec, est témoin de l'action de notre association qui veut justement emmener nos jeunes à partager Christ. Un virus qui s'attrape quand on est jeune, de parler de l'Évangile, de voir des conversions. Et ce matin, Catherine va vous partager en quelques minutes un témoignage et une vidéo qu'elle a fait il y a quelques années, qui est touchant. Et qui découle un peu de son expérience qu'elle a vécue, et Samuel Gibault aussi est dans le montage, lorsqu'ils étaient à Saint-Hyacinthe. Alors, juste laisser la parole à Catherine, qui va vous partager le ministère de Jésus, hein, en allant dans la mission, qu'est-ce qu'elle a vécu et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie.
Bonjour. Donc, moi, j'ai commencé à m'impliquer dans les milieux étudiants au cégep. C'est là que j'ai commencé à m'afficher en tant que chrétienne. Avant, j'en parlais un peu à mes amis proches, mais là, pour la première fois, j'ai abordé des inconnus, je leur ai posé des questions sur leurs croyances, puis on a parlé des choses spirituelles, puis des fois, j'ai eu l'occasion de partager l'Évangile. Puis Dieu s'est vraiment servi de cette étape-là dans ma vie pour me vraiment faire prendre conscience à quel point les jeunes soit qu'ils connaissaient pas Dieu, qu'ils connaissaient très peu de choses sur la Bible ou sur l'Évangile. C'était vraiment triste de voir comment est-ce que beaucoup d'entre eux ne croyaient même pas qu'il y avait un Dieu qui existe, qu'ils savaient pas c'est quoi le sens de la vie. Puis tout au long, j'ai été beaucoup impliquée aussi à l'université, tout ça, puis j'ai parlé à des centaines d'étudiants avec les années, puis toujours c'est les mêmes choses qui reviennent. Les gens savent pas trop qu'est-ce qu'il y a après la mort, ils sont un peu dans le vide dans tout ça. Puis Dieu s'est vraiment servi de ça pour me donner un fardeau pour les âmes, une compassion, puis une passion pour partager l'Évangile, puis cette bonne nouvelle de Christ. Puis c'est ça, comme Jean-Pierre a dit, j'ai fait un montage vidéo quand j'étais au cégep qui montre un peu ma vision pour les cégeps, pour les étudiants, puis un peu qu'est-ce que nous on fait à travers les groupes évangéliques étudiants.
Alors, c'est un échantillon un peu de comment le Seigneur œuvre à travers nous, à travers des jeunes, dans les milieux étudiants, l'été aussi, lorsqu'on parcourt les villes et villages au Québec. Et JBEC est un ministère particulièrement qui aide particulièrement à former les jeunes à l'évangélisation. Aide aussi les églises qui veulent atteindre leur champ missionnaire et particulièrement aussi les implanteurs. JBEC sert depuis 40 ans à aider les églises à implanter. Encore cet été, plusieurs implanteurs ou des projets d'implantation auront une équipe de JBEC. JBEC a été là depuis 40 ans pour parler de Christ, hein, lancer la semence et il y a des fruits. L'année passée, deux familles se sont joints à une église, Oasis et Vaudreuil, si je ne me trompe pas. Alors, chaque année, on a des fruits, Dieu bénit, et les jeunes sont transformés aussi dans leur vie, dans leur cœur. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. Je vais inviter notre frère Guy Lavoie, qui va nous encourager ce matin, au travers des Écritures, dans l'Évangile de Matthieu.
Un paire de ciseaux, et puis arranger ça de quelque façon. Vous savez que ces temps-ci à Montréal, dans la province de Québec, en dehors des limites du Québec, nous parlons beaucoup de la commission Charbonneau. Il y en a qui ne l'ont pas entendu parler. Et beaucoup de témoins viennent et témoignent de la vérité de ce qu'ils ont vu et entendu, des enveloppes brunes qui passent ici et là, annonçant une mauvaise nouvelle, la corruption parmi les autorités politiques parmi lesquelles nous vivons. Au temps du Nouveau Testament, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans tout l'Empire romain, ils entendaient beaucoup parler de la commission que Jésus-Christ avait donnée à ses apôtres. Des témoins sont venus témoigner de la vérité, de ce qu'ils avaient vu et entendu, annonçant cette fois-ci la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ parmi tous les hommes de leur temps. Il y a quelques années, j'écoutais un message de John MacArthur, c'est un de mes amis intimes, là. Je suis allé à son église, j'ai donné mon témoignage là-bas, je suis allé dans sa maison, j'ai bu un peu un café, j'ai eu le privilège de rencontrer cet homme-là plus intimement que d'autres. Mais j'écoutais un message de John MacArthur, ce Matthieu chapitre 28. Vous connaissez tous ce chapitre, Matthieu chapitre 28, si vous voulez le tourner, versets 19 et 20. À vrai dire, on le connaît par cœur. Matthieu 28, dans verset 19, Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il mentionnait dans ce message de la mission que Jésus a donnée à ses disciples, il mentionnait que dans le Nouveau Testament, il y avait trois appels distincts attachés à cette mission que le Seigneur Jésus confiait à son Église. Le premier appel se trouve dans Jean chapitre 1, versets 35 à 51, et c'est l'appel au salut. Dans le contexte de la mission, il nous a donné d'annoncer l'Évangile aux gens autour de nous, de les rencontrer et de les conduire à Jésus-Christ. Et on voit très bien ça dans Jean chapitre 1, si vous voulez juste prendre en note ceci, le lire à la maison ou à l'heure du dîner, au lieu de vous chicaner, prendre Jean chapitre 1 et lire quelques versets de Jean, juste pour comprendre un petit peu plus la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Dans ces versets-là, particulièrement, il y a le verset 41 et 42 qui a retenu mon attention. Jean, chapitre 1, versets 41 et 42. Il est dit, même verset 40, « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » À travers ce texte de Jean, chapitre 1, l'auteur fait ressortir deux verbes qui sont marquants dans l'appel du salut pour les gens qui sont autour de nous. Ces deux verbes sont simples, « rencontrer » et « conduire ». Pas compliqué, n'est-ce pas? Rencontrer et conduire. Dans le contexte de ce chapitre-là, nous voyons en premier Jean-Baptiste qui rencontre Jésus et en le voyant, lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Deux de ses disciples à Jean se trouvent dans l'entourage de Jean et ils sont, par ce témoignage-là, conduits à suivre Jésus. Ils passent un certain moment avec Jésus dans l'après-midi. Jean et André passent ce temps-là. Et là, André et Jean sont convaincus tous les deux que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie qui devait venir dans ce monde. Alors André part à courir, Jean part à courir, et je ne sais pas si c'était Jacques ou Simon qui étaient les plus près de l'un et de l'autre, mais toutefois la Bible dit que c'est André qui rencontra son frère Simon et qui le conduisit à Jésus. Un peu ce temps passé, ils sont en route, Jésus est en route avec quatre disciples, ils rencontrent un personnage qui s'appelle Philippe, et Jésus l'invite à le suivre. Et Philippe se joint à ce petit groupe de quatre qui ont commencé à suivre Jésus. Philippe avait une connaissance qui s'appelait Nathanaël. Il s'est rendu vers Nathanaël, il l'a rencontré. Et en le rencontrant, il a dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et là, Nathanaël est un peu confus. Peut-il venir de bon, quelque chose de bon de Nazareth? C'est comme si vous disiez, peut-il venir de Rosemère quelque chose de bon qui pourrait nous apporter un message sur la parole de Dieu? C'est possible. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et je suis heureux d'être parmi vous pour vous apporter un message de la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Appeler. C'est un appel au salut pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de rencontrer les gens, leur parler de Jésus et les conduire à Jésus. Est-ce que c'est compliqué? Ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que André a conduit son frère Simon. On a tous des frères, on a tous des sœurs, on a tous de la parenté. C'est les premiers contacts qu'on devrait rejoindre pour les conduire à Jésus. Jean a conduit son frère Jacques aussi au Seigneur. Jésus a attiré une personne qui l'a rencontré à lui. Et Philippe a conduit une connaissance à Christ. Et dans ce texte-là, dans l'espace de 4 jours, 6 personnes sont venues à Jésus-Christ. C'était la première équipe de Gibet qui existait sur la terre. Depuis ce temps-là, nous essayons toujours de modeler notre évangélisation sur la façon dont Jacques, Jean, André, Philippe et Nathanaël ont rencontré les gens pour les conduire à Christ. Il dit qu'il y avait cet appel au salut est aussi un appel à la joie. Je ne sais pas si vous avez connu Charles Spurgeon. Il a vécu quelques siècles avant nous, mais j'étais tout proche de lui. À cause de mon grand âge, vous allez comprendre que je pouvais être à plusieurs siècles à la fois. Même j'ai traversé un millénaire. J'ai passé du 2e millénaire au 21e siècle. C'est énorme. En tout cas, c'est dur à porter aussi quelquefois mon dos un peu de bousculé dans comme ça. Mais Charles Spurgeon a dit quelque chose d'intéressant par rapport à l'évangélisation. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que de conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Plus présent chez nous, Bill Hybels, dans son livre « Chrétien contagieux », a dit de l'évangélisation qu'il n'y a pas de plus grand privilège que de conduire quelqu'un au pied de la croix de Jésus. Et son église à Willow Creek, aux États-Unis, a une influence majeure, non seulement dans leur ville, mais à travers les États-Unis en entier, avec le livre qu'il a écrit, Chrétien contagieux, et à travers d'autres endroits, d'autres pays dans le monde. Michel Habib est venu à l'église chez nous la semaine passée à Deux-Montagnes, parce que je suis membre de cette église-là, et il a dit, en prêchant à cette église-là, que la plus grande joie de sa vie a été de connaître Ginette. Non. A été de me rencontrer. Non. Il dit que la plus grande joie de sa vie a été de connaître Jésus. Vous connaissez peut-être quelqu'un autour de vous qui ne connaît pas Jésus. Vous savez ce qu'il a besoin? Vous savez son plus grand besoin dans sa vie? C'est de vous rencontrer afin que vous lui parliez de Jésus. pour exprimer ou expérimenter la joie de conduire quelqu'un des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce que quelqu'un vous a rencontré un jour pour vous parler de Jésus et qu'il vous a conduit à Christ? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous pouvez dire, comme Michel Abbé, c'était la plus grande joie de ma vie, c'était de connaître Jésus-Christ comme mon sauveur? Ensuite, il a mentionné un deuxième appel. Un deuxième appel qui s'adresse non aux incroyants, aux non-croyants de la société dans laquelle nous vivons, mais qui s'adresse aux chrétiens. Il se trouve dans Matthieu chapitre 4 et le verset 18 à 21. Matthieu chapitre 4. Versets 18 à 21, Jésus commence son ministère en Galilée et il est seul. Il vient de sortir de la tentation, il commence à marcher sur la rue, il s'est fait baptiser et là, il commence son ministère d'itinérant. Pendant 3 ans, il n'aura jamais un oreiller pour reposer sa tête. Pendant 3 ans, il va voyager de ville en village. Il va visiter toute la Galilée, 204 villes et villages. Mais il ne veut pas le faire tout seul, alors il va inviter 4 disciples déjà, qui le connaissent depuis 1 année environ, donc qui ont une expérience spirituelle avec lui, qui connaissent Jésus non seulement comme sauveur, mais qui le connaissent comme maître. C'est ce que Luc chapitre 5 nous dit. Et non seulement comme maître, mais après le miracle ou la pêche miraculeuse, qu'ils sont arrivés dans leur vie à le connaître comme Seigneur. L'autorité suprême sur toute chose dans ce monde. Ils l'ont côtoyé, ils l'ont rencontré. Et à ce moment-là, ils ont accepté l'appel de tout quitter pour le suivre. C'est ce qu'on appelle un appel missionnaire. Un appel à suivre Jésus. Un appel à payer un prix, le prix du disciple, afin de devenir des pêcheurs d'hommes. Il y a 2 verbes qui ressortent de ces 4 versets-là. Je vais juste le lire. « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, qu'on a rencontré tantôt dans Jean, et André, son frère. Jean 1, Matthieu 4, 1 an, entre ces 2 chapitres-là, ces 2 références-là. Alors, il rencontre ces 4 hommes-là qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, il alla un peu plus loin et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Si vous cherchez un nom assez original pour votre garçon, Zébédée. Mais attendez-vous des rires de vos compères. Ils vont vous appeler Zépété. Zépété. Mais en tout cas, c'est juste un avertissement de ne pas aller dans ce conseil que je vous donne là. Fils de Zébédée et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. 2 verbes ressortent de ces 4 versets-là. 1, jetait, l'autre réparait. De la part de ces gens-là. Ces 2 verbes nous donnent un aperçu missionnaire du profil de ce que Jésus veut accomplir en chacun d'eux. André et Simon jetaient un filet dans la mer. Et lorsque nous regardons ce fil conducteur à travers l'évangile de Jean particulièrement, nous remarquons que André a conduit son frère Simon à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, il y a des gens qui sont là pour entendre Jésus parler. J'aimerais ça que Jésus soit ici aujourd'hui. On mangerait 5 pains et 2 poissons pour dîner. Il est fort à multiplier des pains et des poissons. Vous vous imaginez? J'ai 5 pains et 2 poissons, Jésus fait la multiplication. Jean-Pierre a 5 pains et 2 poissons, Catherine a 5 pains et 2 poissons, Samuel a 5 pains et 2 poissons, et puis il y a 5 pains et 2 poissons, et Eva. Non? Elle l'a? Non? Élisabeth a 5 pains et 2 poissons. Et on fait le tour. Et tout le monde a ses 5 pains et 2 poissons pour dîner. Bien intéressant, n'est-ce pas? Il jetait des filets dans la mer. Chapitre 6, il a besoin de quelqu'un qui a un lunch. Et André conduit ce petit garçon-là à Jésus pour lui donner son lunch. Et Jésus fait une multiplication des pains. Dans le chapitre 12, il y a un groupe de Grecs, des non-juifs, qui entendent parler de Jésus. Je ne sais pas comment ils ont entendu. Peut-être qu'ils faisaient un voyage touristique en Israël à ce moment-là. Ils entendent parler de Jésus. Beaucoup de gens parlaient de Jésus dans ces années-là. Il était à la une des journaux, à la une des nouvelles, à la une de tout ce que les gens disaient à cause des miracles extraordinaires qu'il faisait. Alors, ces gens viennent pour rencontrer Jésus. Ils rencontrent Philippe, un des douze. Ils lui disent, on voudrait voir Jésus. Et là, Philippe est un petit peu mal à l'aise avec ça. C'est des Grecs, ils ne sont pas circoncis. Je suis un Juif, je suis circoncis. Qu'est-ce que je fais avec des gens aussi barbares que ça? Aussi bizarres. Et là, il fait appel à André. André dit, qu'est-ce qu'on fait? André dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait avec les Grecs? Qu'est-ce qu'on fait avec les Grecs? On les conduit à Jésus. Et André est connu pour quelqu'un qui jette le filet. Mais il jette le filet un à la fois. Il est un évangéliste d'un à un. Il aime les enfants, il a un ministère envers les enfants. Il aime les petits groupes. Il est à l'aise là, il a un ministère dans des petits groupes. Et un disciple qui forme un disciple dans une année deviennent deux disciples pour former deux disciples la deuxième année. Et deux disciples qui ont formé deux disciples deviennent quatre disciples pour former quatre disciples la troisième année. Et ainsi de suite comme ça. Et après 5 ans de formation de disciples, en commençant par un disciple en 2013, on est rendu 128 personnes qui ont été formées comme disciples dans l'Église. Que ça vaut la peine? Vous voulez avoir de la joie dans votre vie? Vous voulez commencer maintenant? 2013 n'est pas très avancé encore. On peut commencer au printemps. Le Québec, au printemps, à l'été et l'automne, c'est les meilleures saisons pour évangéliser et faire des disciples. L'hiver, on gèle. C'est le Québec. On vit au nord. Pas de choix. Il y avait un Inuit qui attendait sa blonde sur le bord d'un iceberg. Elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas. Il sort son thermomètre, il dit, c'est à moins 20, elle n'est pas arrivée, je m'en vais. C'est le Québec, ça. On gèle. Pas besoin de monde, juste un thermomètre pour savoir à quel moment on doit arriver et à quel moment on doit partir. Par contre, pour son frère Simon, c'était pas la même chose. Simon ne conduit personne à Christ dans les évangiles. Il faut attendre le livre des Actes des apôtres et arriver au chapitre 2. Des milliers de gens. Simon, c'est comme ça. C'est pas un poisson à la fois. Il fallait que son filet soit rempli de poissons, sa bague soit remplie de poissons, qu'il appelle ses amis pour qu'ils viennent à son aide. Leur filet était rempli de poissons et leur bague était remplie de poissons. C'est un évangéliste de masse. Lui ne se contente pas d'un poisson. Il ne sait pas quoi faire avec un poisson. Il sentait le poisson, mais il ne savait pas quoi faire avec un poisson. Mais lui, c'est un évangéliste de masse. Il y a des milliers de gens qui sont rassemblés devant lui et il en conduit dans un message puissant sur Jésus-Christ, sa personne, son sacrifice à la croix, et 3000 se convertissent. Le chapitre 4, 5000 hommes s'ajoutent à l'église. Denis, aimerais-tu être pasteur de 5000 hommes? Pourrais-tu tous les suivre? On aurait besoin de ces André qui sont à l'aise avec des petits groupes. Et si on n'a pas ces petits groupes-là, on en forme des hommes qui sont prêts à prendre des petits groupes. Parce que lorsque Simon va arriver avec son verbe et sa puissance dans la prédication, des milliers vont se convertir. Et on va avoir besoin déjà que des disciples soient formés pour prendre la relève. Comprenez? Ça vaut la peine? Chapitre 9, il s'en va dans une ville, la ville de Lydde. Toute la ville se convertit. Simon, est-ce qu'on aimerait savoir ça pour le Québec? Un petit évangéliste qui se promène de ville en ville, quand il va quelque part, les gens se convertissent. Il s'en va à Joppé, Dorcas est là, il la ressuscite. Beaucoup de gens se convertissent, jamais un à la fois. C'est impossible de trouver ça chez Simon-Pierre. Puis il s'en va dans la maison de Corneille. Je ne sais pas s'il volait haut ou s'il volait bas, Mais ils étaient dans cette maison-là. C'était plein de monde qu'il y avait là. Puis, ils prêchent l'Évangile. Toute la maisonnée s'est convertie à Jésus-Christ. Ça, c'était Simon-Pierre. Il était un homme de puissance dans son témoignage et ça lui prenait des foules pour le motiver. Il avait besoin de ça. Vous savez comment qu'on prépare des hommes pour prêcher à des foules? Donnez-lui une vision. Donnez-lui une vision du Québec. On est une petite église à Deux-Montagnes, puis ils nous ont donné une vision de 86 000 personnes à atteindre avec Jésus-Christ de Saint-Eustache jusqu'à la dernière ville au bout là-bas. 86 000 personnes. De quelle façon est-ce que nous pouvons faire une différence avec l'Évangile dans ces 86 000 personnes? Alors, on marche dans les rues, on essaie de comprendre, on contacte les gens, on essaie d'entrer en contact avec différentes personnes, on connaît les autres églises qui sont là, parce qu'on veut savoir de quelle façon on peut avoir un impact pour atteindre 86 000 personnes dans les 6 siècles qui s'en viennent. À un par un, mais si on veut. Le disciple-là a aussi un appel à la maturité. La maturité ou l'engagement de donner sa vie dans la mission. Je reviens à Michel Habib. J'ai écouté son message. D'habitude, on retient 10 à 15% de ce qu'on entend. J'ai probablement retenu 15%. La maturité de Michel Habib. Après sa conversion, il s'attache à l'église de Sept-Îles. Il reçoit une formation. Tous les cours qui se trouvent dans l'église, il les prend. Il entend parler de Saint-Bec. Il prend tous les cours qui sont offerts à Saint-Bec. Il y a un vide à l'église. Ils ont besoin d'un pasteur. Il devient le pasteur de cette église-là. Il y a une région à atteindre avec l'Évangile. Il devient le leader pour l'implantation de 5 églises dans cette région-là. Ils ont besoin d'ouvriers. Il forme 5 nouveaux ouvriers pour atteindre ces gens de cette région-là. Il en veut encore. Il a une vision du Québec. Monsieur Philippe se retire. Il devient le secrétaire général de toutes ces églises de l'association en vue d'avoir un impact dans chacune de ces églises-là avec un ministère de secrétaire de l'association. Il a grandi en maturité. Il a pris de la maturité. Le troisième appel se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. C'est celui-là que je voulais vous parler, mais j'ai plus de temps. Actes chapitre 1, verset 8, il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a 2 verbes qui ressortent particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres. Ils se trouvent dans le verset 1, Actes chapitre 1, verset 1. Luc, qui continue le récit qu'il a donné de Jésus dans l'Évangile de Luc, il dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Faire et enseigner. Jean 14, verset 12, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Comment pouvons-nous faire des œuvres plus grandes que le Seigneur Jésus? Le livre des Actes des Apôtres est consacré à l'évangélisation, l'implantation d'église et répandre l'Évangile ou la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu à travers de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit l'évangélisation de la ville de Jérusalem. On voit l'implantation d'une église et la vie de l'église de Jérusalem. On voit l'enseignement des apôtres qui sont là. Quand on va avec le ministère de l'apôtre Paul, il parcourt tout l'Empire romain. Il implante des églises partout. Il est occupé avec l'évangélisation et il enseigne la parole de Dieu. Juste dans les chapitres qui concernent Paul, Luc utilise 14 verbes différents pour indiquer de quelle façon l'apôtre Paul répandait la parole de Dieu. 14 verbes différents pour montrer l'excitation que Paul avait à prêcher la parole de Dieu autour de lui. Nous avons besoin au Québec de ce zèle pour l'Évangile. Nous avons besoin de ces 3 appels. L'appel au salut, rencontrer et conduire. L'appel à la formation des disciples, jeter et réparer. l'appel à la mission, selon Acte 1, verset 8, faire et enseigner. Sommes-nous prêts pour relever le défi pour les Québécois qui sont morts sans Christ? Le prix d'une vie est tellement plus grand que tous nos conforts et toute notre façon de vivre. On a besoin de prendre en considération sérieusement ce que Jésus nous a confié comme mission. Merci beaucoup.